What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get ready.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Mais non, j'ai pas de fils. Papa, j'ai pas de fils.
Curieux, amateurs, amoureux du cinéma d'Ardèche et du monde entier, bonjour. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, on va entre autres parler en compagnie de Julien, de René et d'Olivier, pour son retour, des films Les Banshees d'Inisherin, de la famille Asada, et puis d'une petite surprise. Et on parlera aussi en fin d'émission, bien sûr, de l'actualité du cinéma qui est très fournie cette semaine. On reparlera un petit peu du festival du premier film d'Annonay. Mais on commence tout de suite par notre petit état des lieux des cinémas en Ardèche. Aujourd'hui, on reçoit David Échalier, qui est directeur du cinéma de Ruyons, gérant.
Ça y est, gérant.
C'est du exactement. Cinéma de Ruyons, Ciné 7. Bonjour, David.
Bonjour.
Alors, je rappelle que le cinéma Ciné 7 a ouvert ses portes il y a à peu près un an et demi, en juin 2021. Oui. Il a été inauguré en décembre 2021, en pleine période de Covid. Alors, c'était un souhait de la Com-Com des Gorges de l'Ardèche, de remplacer l'ancien cinéma Le Foyer, qui était construit, enfin fondé dans les années 50.
Commencé à avoir vécu, on va dire.
Ouais,
voilà.
C'est ça. Et qui était géré notamment par l'association, enfin qui était géré par l'association Le Foyer Ruyonçois, dont vous êtes l'ancien président.
J'étais l'ancien président, oui.
Et le programmateur. Alors voilà pour la petite mise au point historique. Le nouveau cinéma, donc il est super confortable. Vous n'aviez qu'une salle, maintenant il y en a deux. Il y a plus de films projetés. Alors est-ce que ça fonctionne ? Comment se porte le Ciné 7 aujourd'hui ?
Alors, le Ciné 7 se porte bien. Alors, voilà, le problème, c'est que moi, comparé à d'autres cinémas qui vont dire qu'on entend partout, il y a moins de 30% par rapport à la Murane. Et moi, ça, malheureusement, je ne peux pas le constater.
Et oui, on est, vous êtes né, votre année zéro, c'est Covid.
Voilà, c'est ça. Nous, on est à 25 000 entrées. L'ancien cinéma faisait, je crois, dans les 12 000 entrées. Mais bon, il y avait plus de séances aussi. Mais bon, on va dire que c'est... Je pense pas mal, quoi. Pour un petit deux salles, ça va. Pour moi, ça va.
Un petit deux salles. Et du coup, la programmation, c'est à la fois des films généralistes et des films arrêtés.
Oui. Voilà, c'est surtout. Alors, la programmation, je ne peux pas trop en parler parce que la programmation, elle est faite au siège parce que c'est une DSP, donc c'est qu'elle est faite.
Délégation de service public. Donc, la Com-Com a demandé à Cinéode, qui est un privé, de gérer pour le compte de la Com-Com.
Voilà. Donc tout cinéma. Ça, c'est fait maintenant, c'est fait là-haut, c'est fait dans le nord. Donc comme les spectateurs, je reçois le programme un peu 2-3 jours avant. Par contre, je gère surtout tout ce qui est la technique et aussi au niveau des associations, au niveau du local et notamment par le biais, comme avec l'association, j'ai toujours ça. Donc je gère tout ce qui est animation, qui sont à venir, les rencontres qu'on peut faire éventuellement. Voilà.
Oui, et ça c'est très important, c'est vraiment comment faire vivre le cinéma, c'est le rôle à la fois des animations, des films qui sont accompagnés et des associations qui proposent des soirées, des événements spéciaux. Parlez-nous un petit peu justement de la programmation à venir.
Alors la programmation à venir, alors déjà le 18 février, on a le Grand Marin avec la réalisatrice Dinara Drukarova, si je ne me trompe pas, si je ne cache pas son nom, ce qui est un film en fait sur la femme qui veut aller pêcher en mer, qui veut faire ce rêve de pêcher en mer et qui va essayer de s'imposer dans ce milieu d'hommes. Et donc c'est un film, je ne l'ai pas vu, mais qui a l'air intéressant du moins. Mm-hmm. Et je le découvrirai avec le spectateur d'ailleurs. Et après, du coup, il y a une rencontre appelée 5 mars. Alors ça, c'est un documentaire qui s'appelle Ardéchois Paysans Montagnards. qui est fait par Bernard Perrol. Il y a le réalisateur qui vient aussi. Alors ça, on y croit beaucoup. On a eu passé il y a quelques temps, là où le temps s'est arrêté avec le réalisateur.
C'était la semaine dernière.
C'était la semaine dernière, qui a très bien marché. Et là, c'est un peu dans la même veine que Lucie. Je ne sais pas si vous connaissez le film Lucie. Et là, donc Ardéchois, Paysans Montagnards, c'est un peu dans cette veine-là où on voit des vieilles fermes de vieux Ardéchois qui travaillent comme l'ancienne. Et il a fait quatre fermes. Et d'ailleurs, ce petit réalisateur, je fais un appel aux salles qui sont là, Ardéchois, il a du mal à trouver des salles pour le programmer. Et on est la première salle. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un petit réalisateur. C'est sur l'Ardèche. Et après tout, pourquoi pas, quoi. Donc nous, on le fait.
Oui, voilà. C'est le rôle aussi de ces salles, voilà. De proposer, de diffuser ce type de film, complètement. Est-ce que c'est justement, d'après vous, le secret pour continuer de faire venir les spectateurs en salle, de proposer une programmation comme ça, accompagnée, de faire des séances spéciales?
Je ne sais pas s'il y a un secret, il y a une recette miracle, une potion magique pour... voilà. Pour donner la perche un petit peu, on comprend. Quand je suis allé aux rencontres d'Aubenas, il y avait un intervenant qui disait que les cinémas, il y avait beaucoup de vidéos, j'avais bien aimé cette intervention, il disait qu'il y avait beaucoup de vidéos maintenant au vieux monde, il y a beaucoup de vidéos et que les cinémas justement devaient aller là-dessus sur peut-être les rencontres, que le spectacle, les échanges, les rencontres, que c'est ça qui, je pense, qui peut effectivement nous redonner un peu de peps pour faire venir nos gens dans les salles. Je pense vraiment que peut-être, oui, je suis un peu d'accord avec ce monsieur qui était venu, je ne me rappelle plus son prénom.
Je ne sais plus lequel. C'était quelqu'un du CNC, non? C'était quoi?
Peut-être pas du CNC, mais je ne sais plus son prénom. Je l'ai mangé.
Il y avait une rencontre spéciale, hein, c'est ça, pendant les festivals.
Mais ça doit être un de nos invités qui fait les débats, là, oui, effectivement.
Voilà. Qui disait ça, justement, et je pense que j'étais assez d'accord avec ce qu'il disait, d'ailleurs. Voilà.
Pour terminer, est-ce qu'il y a un petit film que vous souhaitez conseiller?
Alors,
votre programmation.
Je ne sais pas si vous le coupez. Moi, mon petit cœur du moment, là, c'est Le Clan. Le film Le Clan d'Éric Fraticelli. Alors, c'est un film vraiment typiquement corse. C'est un humour qui est bien embarqué. Et puis, en même temps, alors, l'histoire, c'est quatre truands bras cassés qui vont essayer de kidnapper Sophie Marceau pour demander une rançon. Et d'ailleurs, on la voit un petit peu dans le film. Mais bon, c'est vraiment pas longtemps, quoi. Et vraiment, c'est un humour qui est super bien fait. Et puis, en même temps, ce qui est marrant, c'est qu'il est typiquement corse, c'est-à-dire que les acteurs, des fois, surprennent un peu par leur jeu parce qu'ils sont très, il y a très peu d'émotions, mais c'est vraiment le cliché corse, très typique russe. Mais en même temps, on va s'attacher progressivement à ces personnages et il leur arrive plein de choses et c'est mon petit cœur du moment parce que je trouve qu'il, vraiment, c'est un humour qui est vraiment, il est vraiment bien fait, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qu'on voit pas tout le temps et j'adorais.
À voir au Ciné 7 de Ruyons. Oui. Quelqu'un d'autre l'a vu parmi vous, messieurs? Non.
Non.
C'est vraiment un film à petit budget. Hein. Il est inspiré d'une pièce de théâtre qui a très bien marché d'ailleurs en France, mais je n'ai pas vu la pièce de théâtre non plus. D'ailleurs, c'est Éric Fraticelli.
D'accord.
Par contre, moi j'ai vu Grand Marin et effectivement, c'est vraiment chouette, un joli film. Donc, si vous avez l'occasion de le voir à Ruyons, allez-y, hein, avec la réalisatrice.
Elle fait la tournée, elle passe au Vence aussi. Hein,
ouais. Oui, j'ai vu. Ouais, au Vence. Et chez vous, c'est quelle date?
Nous, c'est le 18 février. Elle passe à Barjac. Au Vence, juste avant. En fait, on s'arrange entre cinéma. Heureusement, on est tous copains. Donc, on s'arrange des fois de faire des tournées réalisateurs comme ça. Après, je crois qu'elle va à Privas de mémoire, me semble. Et après, elle repart.
Voilà. Donc, vous aurez la chance, probablement, de voir Grand Marin dans l'un de vos cinémas d'Ardèche.
Le programme, mais c'était trop tôt pour avoir la réalisatrice. Mais c'est pas grave.
Mais c'est vrai, le film, bon, quand même. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu effectivement les images parce que, quand même, je regarde les bandes annonces, tout ça. Et ça avait l'air, c'est vrai, d'être un très beau film. Donc, je pense qu'on va se régaler. Voilà.
Merci beaucoup, David. Vous restez avec nous si vous voulez aussi parler des films dont on va faire la critique maintenant. On va tout de suite commencer par un petit film intimiste pour débuter tout en légèreté et en subtilité.
Je vais devenir le nouvel empereur de Chine.
Mais ça suffit, cette histoire!
Coco!
Ne s'inquiétez pas, princesse.
On va vous aider.
Aïe.
Monsieur, je sais tout.
Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain.
Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. Ah, c'est bon, les légumes, c'est bon.
Waouh, vous aurez reconnu, je pense, Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Et oui, Fréquence 7 ose tout. Nous allons parler d'Astérix Obélix, le dernier film de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet himself, Gilles Lelouch, Vincent Cassel. Enfin bon, il y a plein de stars. Il y a un footballeur, il y a le footballeur Zlatan Ibrahimovic, il y a Angèle, il y a... Alors, est-ce que c'est divertissant, bien mené? Est-ce que c'est nul? En tout cas, c'est cher, 65 millions d'euros. Olivier, la potion magique qui a-t-elle
ben moi, je suis
réussi.
Je suis le bon réussi. Public de service. Donc, je continue après le chat poté. Non, bien sûr, ce film, j'y étais avec plaisir. C'était mon retour au cinéma après un long moment sans grand écran. Et donc, je m'étais choisi ça pour passer un moment agréable sans trop me prendre la tête. Et puis, en rejoignant un univers que j'apprécie énormément depuis que je suis enfant. Parce que à la base, c'est une bande dessinée, je ne sais pas si vous êtes au courant, Astérix le Gaulois.
Ah, Astérix le Gaulois.
Oui, c'est un truc Goscinny, Uderzo, ça a commencé en 59 dans Pilote, et ça n'a pas cessé depuis avec différents dessinateurs et scénaristes, 39 albums, 380 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ça vient juste après le manga Shonen One Piece.
Devant Tintin.
Devant Tintin. Ah oui, bien sûr. Un peu derrière la Bible. Et donc, oui, 9e film d'animation, inspiré de cette bande dessinée légendaire, culte, comme on dit. Mythique. 9 films d'animation et là, 5e film classique.
Alors, est-ce qu'il réussit justement à renouveler un petit peu ou pas? Ou est-ce que c'est même
bien,
pas l'idée?
À mon avis, c'est très réussi. C'est-à-dire que d'une part, comme le dit d'ailleurs Anne Goscinny, la fille de Goscinny, on a une assez bonne fidélité à non seulement à l'esprit, mais je dirais même à la lettre de la bande dessinée. On pourrait faire un livre, un film autour de ça, je sais pas. Enfin, c'est une émission qui se fait rare, hein, on va dire. Voilà. Oui, on pourrait, parce qu'il y a... quand on étudie comme ça les rapports du livre et du film, on a tous les cas de figure, hein, dans les rapports. Là, on a un rapport d'assez grande fidélité, hein, bien que ce soit le premier film qui n'est pas directement inspiré
d'un album.
Hein. On avait eu, les autres, étaient inspirés d'aventures du Uderzo et Goscinny. Là, pas, et pourtant, on a bien une histoire qui aurait pu être écrite par Goscinny pour le dessin du Uderzo. Et bien que, effectivement, l'Empire du Milieu, hein, l'Empire du Milieu, Zanguo, ça se dit comme ça, soit effectivement un peu étonnant pour un Gaulois. Hein. Mais enfin, Uderzo et Goscinny nous avaient déjà habitués au procédé avec les Vikings, hein, qui arrivent dans l'histoire bien après 50 ans avant Jésus-Christ, et puis avec Astérix en Corse. La Corse n'existe pas à l'époque de César, évidemment. Donc là, la Chine, pourquoi pas? Et puis, une histoire intéressante, puisque on est dans un petit peu l'époque des royaumes combattants, on est à la Chine antique. Et puis, dans ces royaumes combattants, et bien effectivement, le royaume qui devrait être l'Empire connaît des difficultés. Quelqu'un veut devenir empereur à la place de l'impératrice. Et appelle à son secours Jules César, qui donc du coup va devenir l'ennemi des Gaulois. Ça y est, c'est parti. Et voilà. Et va devenir l'ennemi des Gaulois, va rester l'ennemi des Gaulois, puisque la fille de l'impératrice vient appeler Astérix et Obélix au secours dans leur petit village d'Armorique. Voilà. Donc on a une histoire bien gaussinienne. Et puis les personnages, à mon avis, sont effectivement très bien campés. La critique critique Astérix, où elle voit un ronchon anti-vegan, basique, franchouillard, etc. Je rappelle qu'Astérix est un ronchon franchouillard, effectivement, dans la BD, qui a tout ce qu'il faut pour un prix dans la catégorie genre idéal, sauf que ce serait plutôt la catégorie vieux garçon, hein, qui lui tend les bras. Donc, je trouve que Guillaume Canet fait très bien l'Astérix. À mon avis, Gilles Lelouch fait très bien Obélisque. Obélisque, non, Obélix. Voilà. Voilà. J'ai été frappé de ce que Gilles Lelouch me faisait ressentir exactement la même chose que le personnage d'Obélix dans la BD. Ah. Et j'ai trouvé que de ce point de vue-là, il était bien meilleur que Depardieu. Mmh. Vincent Cassel campe un empereur César, Jules, de tout première grandeur, à mon avis. Ainsi de suite, y compris notre international de football qui fait, à mon avis, un très bon antivirus.
D'accord, voilà. Super. Donc, contrairement à beaucoup de critiques, à la fois de la presse et des spectateurs, toi, tu as été plutôt emballé.
Ben, si je prends la critique globalement gaucho, écolo, bobo, parigo, etc., je prends cette critique-là, et puis moi, je la retourne. On me dit, tu disais toi-même tout à l'heure, ça coûte cher, 65 millions, c'est le plus cher des Astérix. Bon, d'accord, mais on chante moins cette chanson du pognon de dingue quand Bernard Arnault achète 49 millions un caillebotte pour l'offrir au Louvre. Hein. Donc, il faut à un moment donné, quand des gens réclament des déviations hors de prix pour gagner 10 minutes dans leur bagnole, ils font moins aussi la grimace. Là, on a 65 millions qui sont mis dans un film qui va peut-être